Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard, le 18 décembre 1991.
Je vous disais la dernière fois qu'immédiatement après Thomas d'Aquin, le problème de la finalité, le problème de l'acte, de l'être en acte, n'est plus du tout traité au plan métaphysique. Alors, on avait regardé Occam. Occam est toujours un moment très important et très intéressant. Il prépare Luther, de fait. Et c'est ramener la métaphysique à la logique. Alors, que devient le problème de l'être en acte et en puissance, en logique? Il faut se poser le problème. C'est intéressant. Parce que, de fait, avec Occam, c'est bien ce que l'on trouve. Alors, je vous avais lu ce passage, je vous le relis, simplement pour que vous touchiez un tout petit peu ce que représente cette chute qui a eu une influence énorme. Ça, je crois qu'au point de vue de la pensée européenne et humaine, Occam a eu une importance très très grande. Après Don Scott, après Thomas d'Aquin, il y a toujours Henri de Gand qui revient à Vicennes, Don Scott qui veut faire le lien pour retrouver la pensée de saint Thomas, et Occam qui veut retrouver la pensée d'Aristote. C'est très curieux du reste. Et ni l'un ni l'autre ne retrouve l'être en acte. Pour Don Scott, la causalité finale est métaphorique. Mais Don Scott ne ramène pas tout à la logique. Hein. Ça, c'est quand même pensée très formaliste, Don Scott, le docteur très subtil. Et Occam, alors lui, ramène à la logique. Je lis ce texte. L'être se divise en être en puissance et être en acte. Donc matériellement, c'est parfait. Il ne faut pas entendre par là que quelque chose qui n'existe pas réellement, mais peut exister, soit véritablement de l'être, et que quelque chose d'autre qui existe réellement soit aussi de l'être. Mais Aristote, en divisant au 5e livre de la métaphysique l'être en puissance et en acte, veut dire, intendit, que le mot, que le nom, être, est attribué à quelque chose par l'intermédiaire du verbe être. Oui, c'est intéressant. On est au niveau du nom. Que le nom être est attribué à quelque chose par l'intermédiaire du verbe être. Et dans une proposition purement de inesse, non équivalente à une proposition des possibilités. Comme lorsqu'on dit Socrate est un être, la blancheur est un être, ou au contraire que le nom être n'est attribué que dans une proposition des possibilités, ou équivalente à une proposition des possibilités. Comme lorsqu'on lorsqu'on dit l'antéchrist peut être un être. Ça, l'antéchrist joue un rôle très très important, logique. Vous voyez, le problème de la supposition. L'antéchrist peut être un être. Je ne sais pas si vous comprenez comment tout le problème métaphysique, ceci est, se situe au niveau de la proposition et, comme on dira ensuite, de la copule. Tout le problème de la copule est c'est Occam. Tout est transposé au niveau du langage. Et on ne regarde plus du tout la réalité, mais la proposition. D'où l'importance de la proposition des possibilités. Comme lorsqu'on dit l'antéchrist peut être un être, ou l'antéchrist est un être en puissance, puisqu'il n'est pas encore là, du temps d'Occam. Et ainsi de suite. C'est pourquoi il peut, au même endroit, que l'être puisse se dire, selon la puissance et selon l'acte. Potestate et actu. C'est pourquoi il veut, au même endroit, que l'être puisse se dire selon la puissance et selon l'acte, comme sachant et se reposant. Et cependant, rien n'est sachant ni se reposant s'il n'est actuellement sachant ou se reposant. Donc, au niveau du langage, c'est très net. On a les deux contraires. Oui, on passe du domaine de la contradiction au domaine des contraires. Et le dépossibili, la proposition dépossibili, prendra une importance énorme parce que, en théologie, on se posera la question à propos de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire ou ne pas faire? Oui. Donc la proposition du possible sera vue sous la lumière de la puissance de Dieu et dans la lumière de la puissance de Dieu. Et on aura toute une théologie des possibilités. On ne sera plus en face d'une théologie de ce qui est, l'acte de foi, mais une théologie au point de vue du possible. Donc, on ne regarde plus, ça c'est plus un cap, c'est la glose marginale. On ne regarde donc plus la division de l'être comme telle, mais celle qui concerne l'attribution de l'être, le legein. On passe du domaine métaphysique à celui de la logique. De plus, Occam ne saisit plus cette division comme une distinction, mais comme deux états de fait. C'est pourquoi il ne peut saisir la distinction que fait Aristote entre celui qui sait et celui qui se repose. Rien n'est sachant ni reposant s'il n'est actuellement sachant ou se reposant. D'ailleurs, si l'on regarde son commentaire du Périherménéas, on voit comment Occam définit le possible et dit possible ce qui est en acte. Il l'autre connaît in actu. Ou, d'une autre manière, ce qui n'est pas en acte et cependant peut-être. C'est assez curieux, hein? C'est de lui les deux propositions. On dit possible ce qui est en acte. Ou, d'une autre manière, ce qui n'est pas en acte et cependant peut-être. Ou encore, d'une autre manière, ce qui n'est pas impossible. Donc vous avez trois manières de regarder le possible. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas en acte et cependant peut-être. Et ce qui est en acte. Alors essayez de comprendre. Les trois propositions sont de lui. Hein. Oui, ce qui est possible, il est en acte dans ma pensée. c'est sûr. Quand vous parlez du possible, il est en acte dans votre pensée. Le possible mathématique est en acte dans ma pensée. Le possible, il n'est pas en acte puisqu'il distingue de l'acte. Mais peut-être. Et le possible, il n'est pas impossible. Du point de vue grammatical, c'est très juste. Vous avez les trois niveaux. Occam explique. Le premier possible s'identifie avec le nécessaire. Est idem. Il est identique avec le nécessaire. Le second, avec ce qui n'est ni nécessaire ni impossible. Le troisième est commun à l'un et à l'autre. D'autre part, Occam distingue encore ce qui est possible en fonction de l'ordre voulu par Dieu et le possible consistant en l'absence de contradiction. Le possible, c'est tout ce qui n'est pas contradictoire. Et le possible, c'est ce que Dieu peut vouloir. Parce que le possible va jouer un rôle très très important. Alors, rappelez-vous ce que dit Aristote. Dans l'ordre du devenir, le possible est premier. Si on n'atteint plus l'être en acte, est en mouvement. Et le possible devient premier. Affirmer que le possible est ce qui est en acte, voilà qui n'a pas de sens dans la perspective d'Aristote. Mais dans celle d'Occam, on comprend ce que cela veut dire, du moins on essaie de comprendre. C'est le fait actuel d'être possible que l'on regarde. Et c'est pourquoi il est nécessaire comme possible. Vous commencez à voir. Oui. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. C'est le fait actuel d'être possible. Le possible, il est possible. Donc, le fait actuel d'être possible fait que le possible est en acte. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce que le fait actuel d'être possible fait que le possible est en acte. Donc, votre langage donne au possible son acte. Dès que vous dites le possible, le fait actuel d'être possible. Laissons cette conception logique de l'acte et de la puissance. Alors, on retrouve la même chose dans la philosophie de la nature. S'interrogeant sur l'essai de la matière et voulant prouver qu'elle est une entité actuelle en acte, véritablement une substance en acte, Occam précise que l'acte se comprend de multiples façons, soit au sens strict, comme l'acte informant une chose et venant s'y adjoindre, soit en tant qu'ils se contredisent de l'être en puissance. Et c'est in potentia, c'est-à-dire de ce qui n'existe pas réellement, mais peut-être. Si l'on prend l'acte au premier sens, qui est celui de la forme substantielle, il faut dire que la matière est en puissance à l'égard de tout acte substantiel et n'a d'elle-même aucun acte, mais est pure puissance. Mais si l'on prend l'acte au second sens, la matière est alors en acte, car elle existe réellement, in natura rerum, et n'est pas en puissance à l'égard de tout acte, puisqu'elle n'est pas en puissance à l'égard d'elle-même. Elle n'est pas en puissance à l'égard d'elle-même, puisqu'elle est, donc elle est acte. Et si on était tous en camion, on pourrait rêver. Ça fait rêver, ça. C'est très, très curieux comme pensée. Hein. essayer de la saisir, c'est pas commode. Je crois que c'est le possible qui prend tout. Je n'arrive pas à le penser autrement, moi. Si je prends le possible qui prend tout, tout ce qu'il dit est logique. Il se tient. Et c'est au niveau du langage. Toujours à propos de la matière première, Occam fait une nouvelle distinction. L'être en acte, ens in acto, se prend en deux sens. D'une part, il se prend au sens large et communément, pour tout être existant réellement. Et en ce sens, il n'est pas vrai que tout ce qui advient à l'être en acte soit accident. Et ainsi, la matière première est être en acte. D'autre part, l'être en acte se prend en un sens plus strict pour ce qui existe par soi, pro illo, quod est per se existens, n'existant pas dans un autre à titre de partie, et ainsi apte à se conserver dans l'être. En ce sens, il est vrai que tout ce qui advient à l'être en acte est accident, et ainsi la matière première n'est pas un être en acte, car elle n'existe jamais qu'à titre de partie dans un autre, à savoir dans le composé. Elle ne peut être que partie. Et à cause de cela, la forme lui advient. À cause de cela, la forme qui lui advient n'est pas un accident. Voilà ce qui est net, pris en un sens général et commun. L'être en acte est le fait d'exister, peu importe comment. Exister dans ma pensée, exister dans la réalité. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, l'aspect positiviste qui s'introduit en métaphysique, le fait d'exister. C'est plus ceci est, mais c'est le fait d'exister. Oui, c'est le noumen de Kant. On ne le comprend pas, mais le fait d'exister. Donc, pris en un sens général et commun, l'être en acte est le fait d'exister. Au sens strict, l'être en acte est ce qui existe par soi. C'est la substance ou la forme substantielle. Donc, vous ramenez l'être en acte à la substance. C'est très important de comprendre ça. Parce que Gilson dit qu'Aristote, c'est une ousiologie. C'est vrai, d'Occam. Gilson, et la suite de Gilson, beaucoup d'autres le diront, pour le jugement d'Aristote. Alors, ça vient de ce que Occam a joué un rôle capital dans la scolastique décadente. C'est à partir d'Occam qu'on est en présence d'une scolastique décadente, la scolastique du possible. Et l'être en acte se ramène à la forme substantielle. Si l'être en acte, au sens strict, se ramène à la forme substantielle, vous comprenez bien que la métaphysique d'Aristote se ramène à la substance. N'essayez pas trop de le penser, parce que vous deviendrez occamien. On dira aussi que les choses sont en acte quand elles sont séparées les unes des autres, donc le fait d'être en acte, de manière à ne pas former quelque chose qui soit un par soi, et que esse in actu peut désigner ce qui est complet, de sorte qu'il ne reste rien d'autre à achever, donc ce qui est parfait. L'être en acte, c'est ce qui est parfait. Le fait. Le fait d'être parfait, c'est être en acte. On ne peut rien lui ajouter. Alors que esse in potentia implique que quelque chose reste à achever. Complementum. Il n'y a donc plus chez Occam de métaphysique de l'acte et de la puissance, ce qui est normal, puisqu'il n'y a plus chez lui de métaphysique de l'être. Il y a, d'autre part, une logique de l'attribution des inessés et des possibili, et d'autre part, une philosophie de la nature, la reconnaissance du fait d'exister, ce qui appartient proprement à la substance. L'acte n'est plus saisi que dans son résultat. Dans ce sens-là, je dis que c'est un positivisme. Le résultat, c'est le fait d'exister. Voilà le résultat. C'est le fait d'être parfait. C'est le fait d'être autonome. Voilà l'acte. C'est le fait de ne dépendre de rien d'autre. Alors que le possible, c'est celui qui dépend. C'est celui qui est parti. C'est celui qui n'existe pas par lui-même et qui existe en fonction d'un autre. C'est intéressant pour comprendre comment la distinction de l'être en acte est premièrement deux états. La distinction de l'être en acte et en puissance devient le fait d'être en acte, le résultat, le fait d'être en puissance. En logique, que devient la distinction être en acte et être en puissance? Ça devient tout simplement, au niveau de l'attribution, le fait d'inessé et le fait des possibilités. Donc, c'est deux modalités d'attribution. On est en présence de deux modalités d'attribution. La modalité d'inessé et la modalité des possibilités. Vous voyez, c'est quand même une chute verticale de toute la métaphysique de l'être en acte en puissance. Alors, ce que c'est un fait, c'est qu'à partir d'Occam, on voit bien que la métaphysique de l'être en acte, la puissance, disparaît. Alors vous retrouvez, de fait, vous retrouvez chez Leibniz la distinction de l'être en acte et d'être en puissance. Mais cette distinction de l'être en acte et l'être en puissance chez Leibniz fait que l'être en acte, c'est l'énergie, c'est l'exercice. Et puis vous retrouvez chez les modernes tout un livre de l'acte qui, de fait, ne regarde l'acte que comme un état. Et ce n'est plus du tout le point de vue métaphysique. C'est vraiment uniquement le fait d'être un état. Et je crois que c'est ça qui, de fait, va faire que ça devient quelque chose de si difficile à saisir pour. C'est qu'on a bloqué le point de vue métaphysique et le point de vue logique. Et bloquant le point de vue métaphysique et le point de vue logique, on n'arrive plus à saisir ce que représente vraiment le point de vue de l'être en acte et l'être en puissance. Ce qui est sûr, c'est que la distinction de l'être en acte et d'être en puissance, on le retrouve partout. C'est pas rejeté du tout. C'est ça qui est aussi intéressant à noter. C'est que si la distinction de l'être en acte et en puissance est ramenée à l'aspect du fait d'être en acte et du fait d'être en puissance, donc dans ses résultats, cette distinction est actuel dans la philosophie. Sartre l'apprend. Vous la retrouvez aussi pratiquement dans toute la philosophie. La philosophie de la substance va disparaître. Et la philosophie de l'être en acte et en puissance continue d'exister. C'est curieux, ça. Je crois que c'est la logique qui sauve la distinction d'être en acte et en puissance. Puisque la logique continue d'exister dans toute la pensée moderne. Et la métaphysique disparaît. C'est un phénomène très curieux, ça. Si je regarde alors la philosophie européenne, je vois que la logique a été la dernière à se distinguer de la philosophie. Elle est la dernière née avec Aristote. Et elle est la dernière qui continue d'exister. La métaphysique a disparu. Et l'enterrement magistral de la métaphysique se fait avec Heidegger. Et on est en face d'une ontologie fondamentale. On ne peut plus parler de métaphysique. Et la logique continue d'exister. Avec la logique mathématique. Avec l'informatique. On l'utilise. Et la philosophie, par la logique, demeure utile. Et c'est la dernière dégradation de la philosophie qui devient servante dans l'informatique. C'est très curieux de voir ça. Et c'est très intéressant. Vous voyez, quand vous essayez de comprendre que devient la métaphysique dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, petite question, parce que maintenant, je laisse la topique, hein, parce que je crois que si je insiste trop sur la topique, quand on ne connaît pas suffisamment les auteurs, c'est très fatigant. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez simplement, c'est que le sort de l'être en acte, d'être en puissance, par Occam, demeure en logique et demeure uniquement au niveau des résultats. Alors, je lis tout de suite cette question avant d'entrer dans la recherche proprement philosophique de l'être en acte, d'être en puissance. Le problème de la finalité ne se pose-t-il pas par rapport aux seules opérations? Comment l'être peut-il être finalisé puisqu'il est au-delà du devenir? Pourquoi ne parle-t-on pas d'ousia en acte? Vous voyez, Occam. C'est très curieux, hein, je l'ai lu exprès après. C'est exactement la position d'Occam. Oh, celui qui a lu ça n'a sûrement pas lu Occam. Mais comme c'est présent. Et c'est vrai, ça, c'est très présent. On n'arrive plus à penser la finalité au niveau de l'être. Pourquoi ? Parce qu'on a identifié finalité et devenir. Pourquoi a-t-on identifié finalité et devenir ? On a identifié finalité et devenir parce que la finalité s'est ramenée à la cause efficiente. Je vous ai dit, en regardant les diverses causes propres de ce qui est, il n'y a pas de recherche de la cause matérielle de l'être. Il n'y a pas de recherche de la cause efficiente de l'être. Mais il y a une cause, il y a une recherche de la cause formelle de l'être et une recherche de la cause finale de l'être. C'est ce que nous allons voir maintenant. En métaphysique, il n'y a que deux recherches. Cause formelle, cause matérielle, cause finale. On va essayer de le comprendre. C'est très difficile pour nous, étant donné notre situation historique. Notre situation historique fait que la cause formelle de ce qui est en tant qu'être, c'est-à-dire la substance, est volatilisée avec la substantialité chez Hegel. Et la distinction de l'être en acte et l'être en puissance se ramène au fait d'exister. Donc l'ousia, au fait d'exister. Ou à la logique, à la proposition, inessée et des possibilités. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que pour nous, nous avons une difficulté très grande de repenser, donc de retrouver l'être en acte et l'être en puissance. Dans le thomisme habituel, scolastique habituel, pas chez ceux qui ont pensé le thomisme, mais dans le thomisme habituel, je vous ai renvoyé au petit livre de Gardeil, Henri Gardeil, pas le grand, le petit. Il fait une métaphysique de saint Thomas, la distinction de l'être en acte et d'être en puissance est une distinction secondaire. Elle n'est plus la grande division de l'être en acte et d'être en puissance. Ce que nous allons essayer de retrouver. Alors, on la retrouve chez Gilson, c'est sûr. On la retrouve chez Fabreau. On la retrouve chez Geiger. On la retrouve. Bon. Alors, ce qui serait très intéressant, ça, il faut le faire, c'est de voir que chez ces thomistes qui ont dépassé la scolastique, ça, c'est évident. Gilson, Geiger, Fabreau dépasse la scolastique. Je ne les mets pas du tout sur le même plan. Hein. Je les cite. Et ce qui serait très intéressant, puisque ce sont des thomistes qui sont contemporains, tout proches de nous. Alors, ce serait extrêmement intéressant de voir comment ces thomistes regardent saint Thomas et Aristote. Parce que c'est là où on s'aperçoit. Et comment ces thomistes précisent l'être en acte et l'essai de saint Thomas. Parce qu'ils redécouvrent, c'est ça que l'importance et l'intérêt, ils redécouvrent la place capitale de l'essai dans saint Thomas. Gilson, à partir du DNT Sensio. Et je crois, Fabreau, dans une lecture de la Somme, et aussi du DNT. Et Geiger, dans la lecture de la Somme. Ça, je connais mieux la position du père Geiger. Alors, c'est à partir de cette place si importante de l'essai dans saint Thomas, qu'ils ne peuvent pas accepter la position classique de la scolastique décadente, qui est la position de Suarez voulant lutter contre Occam. prison d'Occam. La prison classique de la scolastique, c'est Suarez, c'est pas Occam. Et Suarez lutte contre Occam. Mais Suarez lutte contre Occam n'allant pas suffisamment loin. Alors on pourra regarder au terme la position de ces différents thomistes. Je veux maintenant essayer avec vous de voir comment nous allons poser le problème de l'être en acte et de l'être en puissance. Puisqu'il s'agit de le retrouver, il faut partir du langage. Le langage est un signe. Ce n'est pas le langage qui va me permettre de faire la métaphysique. Mais le langage me réveille. Puis l'avantage, c'est que le langage, tout le monde parle. Dans le langage, je vois que le verbe a une place unique. Le verbe, dans ce qu'il a de tout à fait fondamental, se ramène à l'être. Il y a donc deux aspects de l'être, le nom et le verbe. Mais ce qui est très curieux, c'est que le verbe être se ramène au nom par la forme infinitive. Tandis que le verbe au présent se distingue du nom. Ceci est très intéressant, parce que ça me montre que entre le verbe et le nom, dans le langage, il y a un lien. Il n'y a pas une totale séparation. Il y a un lien. Je peux passer du verbe vers le nom, l'être. C'est un nom. Marcher, c'est un nom. L'infinitif a une forme substantielle. Parce que l'infinitif peut s'isoler. Le verbe, normalement, est relatif au nom. Et dans l'infinitif, le verbe peut s'isoler. Si le verbe est relatif au nom, grammaticalement, cependant le verbe actue le nom. Il lui donne une possibilité d'être lui-même autonome, ce que Occam a très bien saisi. Le verbe être donne l'autonomie au nom. Et c'est pour ça qu'il considère justement que être en acte, c'est tout simplement le verbe qui donne l'autonomie. Pierre marche. Point. Tandis que quand vous dites Pierre tout seul, pas de point. N'est-ce pas? Si vous écrivez comme ça. Je sais bien que dans le langage moderne, on fait n'importe quoi. Alors, vous pouvez dire Pierre. Pierre, vous restez en suspens. Pierre, quoi? Point. Tandis que quand vous dites Pierre, pense. Vous êtes en repos. Pierre existe. Pierre est. Pierre est, très bien, il existe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a quand même un point. Pierre tout court, non? Très curieux de voir que le nom ne satisfait pas la pensée. Point d'interrogation. propositions dans le langage. Et là, Occam dit des choses intéressantes. Il a beaucoup réfléchi sur le langage. C'est la première philosophie du langage, Occam. Il a beaucoup réfléchi sur ce que représente l'attribution. Oui, c'est la philosophie de l'attribution. Le prédicable disparaît. Le prédicable, vous voyez ce que c'est, hein, c'est l'universel pur. Tandis que c'est vraiment l'attribution qui, pour lui, est la clé. Alors, Occam a beaucoup réfléchi sur ce fait que, en effet, les propositions inessées, Pierre est. Pierre est intelligent. Pierre pense. Proposition inessée. Tandis que quand vous prenez une proposition possible, vous êtes en face de... Il est possible que... Vous n'êtes plus en proposition d'inessée. L'être n'exprime plus la copule de l'inhérence. Possibilité. Donc, le nom ne satisfait pas la pensée. Ce qui montre bien que le nom reste en attente du verbe. Si le nom reste en attente du verbe, le verbe actue. Il termine. Il achève. Et vous êtes en face d'une proposition qui se tient. Pierre existe. Pierre est. Pierre pense. Vous pouvez en ajouter, c'est sûr, mais vous êtes en face de quelque chose qui se tient. Donc, le langage montre que la transmission de la pensée, puisque le langage permet la communication, vous parlez normalement pour les autres, pas tellement pour vous, sauf quand vous voulez vous réveiller. Quand vous voulez vous réveiller, vous lisez tout haut. C'est pour ça que les chanoines récitent l'office. Pour se réveiller, n'est-ce pas? Quand vous, de fait, quand vous pensez et que vous êtes très éveillé, vous n'avez pas besoin du langage. Le langage sert de communication. Et vous voyez donc que pour la communication, la proposition nom et verbe est la seule chose parfaite. C'est pas le nom, c'est pas le verbe. Sont des éléments. Et ces éléments ont ceci de particulier, c'est que ces éléments se complètent. Ils sont faits l'un pour l'autre. Le nom seul n'est pas parfait. Le verbe seul n'est pas parfait. Il ne se tient pas. Mais il actue. Alors, vous voyez donc tout de suite que dans le langage, le verbe actue. Il joue un rôle très particulier. Et le nom est ce qui reçoit cette actuation. On peut tous comprendre ça, je crois. Et que je peux, en effet, alors ça c'est quelque chose de très particulier, je peux, par la forme de l'infinitif, donner au verbe un rôle absolu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au point de vue de la pensée? Ce qui est relatif devient absolu. Je peux beaucoup plus difficilement faire ça à l'égard du nom. Parce que le nom, normalement, est l'absolu, le sujet qui reçoit, le sujet qui peut être qualifié. Mais je peux aussi l'employer d'une manière relative. Et je le fais beaucoup moins. C'est un peu une entorse. Le nom, normalement, est quelque chose qui se tient. Et le verbe, normalement, est relatif, il est second. Mais il peut prendre cette forme. Ceci montre que dans le langage, il y a donc deux grands aspects pour regarder l'être. Le nom et le verbe. Il y a ceci très particulier. C'est que l'être est premièrement verbe, plutôt technon. La signification de être est premièrement du côté du verbe. Ça, c'est très curieux. Et ça pose la question. Alors, si je veux vraiment connaître l'être, la substance ne me fait pas connaître vraiment l'être. C'est le verbe. Et donc, je ne peux pas me contenter de la recherche de la substance pour connaître ce qui est comme tel. Je suis conduit nécessairement à reprendre tout le problème de l'être, non plus du côté du nom, mais du côté du verbe. Puisque j'en cherche ce qui est comme être. C'est ça, on s'est posé la question comme ça au point de départ. Et donc, je vois que la découverte de la substance, très bien, c'est fondamental, mais c'est pas ultime. Je reste en suspens. Je reste... Vraiment, ma connaissance reste inachevée. Ma connaissance de l'être comme tel ne peut pas s'arrêter à ça. Alors, encore une fois, c'est le langage. Et donc, ce n'est qu'un signe. Mais c'est un signe que je ne peux pas me satisfaire de la philosophie première des substances. Le langage crie à ce moment-là. Et le langage crie en disant, je ne peux pas m'arrêter à cela. Puisque Pierre, au point de vue de l'être, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Je ne le dis pas, donc ce n'est pas suffisant. Je dois donc continuer ma philosophie première du côté du verbe. Du côté du verbe pour savoir ce que c'est que l'être. Parce que l'être est premièrement verbe. Alors, vous voyez cette espèce de contradiction. On comprend très bien la position d'Auban. On comprend très bien la position de ceux qui abordent la métaphysique par le point de vue du legein, du dire, donc de la parole. On est en face d'une quasi-contradiction. La recherche de ce qui est en tant qu'être m'apparaît comme fondamentale et au-delà de toutes les autres expériences. Ce que nous avons essayé de comprendre au point de départ. C'est vrai, c'est une méta-expérience. Donc, c'est une expérience fondamentale de dire ceci est. Et la recherche à partir du ceci est, de l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être? Je vois que c'est fondamental. Et je vois d'autre part que cette philosophie, donc cette recherche analytique de ce qui est, comme telle est boiteuse, puisque l'être est relatif comme verbe à ceci. S'il est relatif, ben il n'est pas premier. Le verbe est toujours relatif, donc il n'est pas premier. Il n'est premier que par un procédé tout à fait particulier de l'intelligence, de la forme infinitive. De lui donner, c'est l'intelligence qui lui donne quasi une substance pour le considérer en lui-même. Alors il y a une espèce de contradiction latente. Le verbe être apparaît comme agent. point de vue du langage, être est relatif. Au point de vue de ma recherche, philosophie première, l'être est premier. Alors, je crois que c'est capital pour toute la philosophie de l'être en acte, d'être en puissance. Et on voit très bien là l'intérêt de la position d'Occam. Il faut faire une méthodologique. Mais une méthodologique n'existe pas. Il faut faire méta-langage. Ça n'existe pas. C'est le langage qui montre que c'est absurde. Si je prends le langage comme l'absolu, le langage montre que c'est absurde une métaphysique. Ça ne signifie rien du tout. Puisque vous parlez d'une métaphysique comme regardant l'être comme quelque chose de premier. Or, au point de vue du langage, l'être est toujours second. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que ce qui est second est premier ? Je crois que c'est très très important ça. Parce que là, on touche la modernité. Le problème d'aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes intelligentes et même chrétiennes disent Dieu sans l'être. Ça a été écrit. Hein. Dieu sans l'être. Parce que pour eux, être reste relatif. Donc, on peut être attribué à Dieu. Si je suis occamien, mais c'est sûr, je dois dire ça. Dieu sans l'être. Parce que Dieu est absolu. Et être est relatif. Donc ne mettons pas quelque chose de relatif à Dieu. Et allons jusqu'au bout. Alors vous voyez, là on touche quelque chose de un os qui n'est pas commun du tout. Et qui de fait est l'os qui m'empêche d'atteindre l'être en acte. Si je reste au niveau du langage, vous n'atteindrez jamais l'être en acte. Si vous restez au niveau de la logique, vous n'atteindrez jamais l'être en acte. Vous ferez de l'être en acte la copule. Donc un être de raison. Et vous direz par le fait même, oui, l'intelligence vient au service de l'être. Parce qu'au fond, toutes les expériences que j'ai relèvent du devenir. Et je n'attache jamais l'être en acte. Kant. Toutes mes expériences touchent le contingent, donc le devenir. Vous n'avez jamais eu une expérience de l'absolu. Jamais. Vous ne pouvez pas. Ce serait l'électrocutation de votre intelligence. Vous ne touchez que des interdits. Donc, c'est l'intelligence qui, par la logique, vient au secours de l'infirmité de l'être. Et c'est l'intelligence qui pense l'être. Heidegger. Qui reste lié encore à Kant. Je n'ai pas l'expérience de l'être. Vous voyez, saisissez bien ça parce que c'est toute la modernité qui est là et qui fait que je vois, mais c'est impossible. Vous serez en face de ces objections. Si vous discutez un tout petit peu avec certains qui sont formés par le point de vue Descartes, et qui ne vont pas beaucoup plus loin. Alors, ils resteront là. Et vous direz, voyez, la métaphysique, ça n'existe pas. Et vous serez coincé. Hein. Je dirais, oui, c'est vrai, on ne m'a pas dit ça. Oui, on vous l'a dit, puisque je vous le dis maintenant. On ne m'a pas dit ça. On a fait la métaphysique, tout simplement, parce que ça devait exister, donc ça, il fallait que ça existe. L'aspect substance existe en logique par le point de vue du sujet. C'est pour ça que la scolastique ramène la substance au sujet. Elle n'a pas saisi du tout la métaphysique. Elle reste logique. Mais l'acte, on est coincé. On dit, mais l'acte, c'est tout simplement ce qui vient actuer, achever, rendre autonome. Donc c'est laisser. Et c'est la philosophie de laisser. De l'exister. De l'être. Alors, il faut comprendre ça. Donc il faut comprendre que veut revenir au langage me pose avec beaucoup d'acuité que je ne peux pas rester à la substance. Pierre, point. Je ne peux pas rester à la substance. Je suis obligé d'aller plus loin, mais je ne vois pas comment. Le langage me pose le problème avec une très grande acuité si je n'ai pas d'a priori.